Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu à flanc de culture. Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Tours. Aujourd'hui, le Dahu a le plaisir de rencontrer une artiste, plasticienne, photographe et sculpteur, Evelyne Plumecoq. Evelyne Plumecoq nous détaille son parcours d'artiste et nous emmène visiter sa galerie privée. Ouvrez grand vos oreilles et vos yeux sur Radio Campus Tours.
J'étais pas faite au départ pour être peintre. J'étais intéressée par plein de choses. J'étais petite, très bricoleuse. Je peignais déjà, je faisais plein de petites choses. Alors moi, j'ai arrêté en seconde. Je ne supportais plus de rester assise sur une chaise, d'écouter quelqu'un. C'était insupportable pour moi. J'avais envie de vivre, de faire des choses de ma vie et pas rester à écouter quelqu'un. Mes parents me tannaient pour me demander « qu'est-ce que tu veux faire ?» Je voyais des tapisseries dans un magasin et j'ai dit « voilà, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire des tapisseries. » Et donc, ils m'ont trouvé un atelier de restauration de tapisseries anciennes où j'ai fait un CAP de restauration de tapisseries. J'ai eu mon CAP, je me voyais boucher des trous, recréer des motifs, ça sentait la naphtaline, ça sentait la mort et je me suis dit « bah non, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. » Et là, mon ami m'a poussée à reprendre les études et je suis entrée à l'école des Beaux-Arts. J'ai eu mon diplôme et ça a coulé de source et j'ai eu envie de faire que de la peinture, de la sculpture, de la photo, de créer. Alors, ma peinture, pas très facile de parler de sa propre peinture, c'est plus facile de parler de celle des autres. Lorsque j'étais au Beaux-Arts, j'avais un professeur qui s'amusait beaucoup en me voyant, parce que lorsque j'étais en train de créer, justement, je m'installais des fois pendant une demi-heure, trois quarts d'heure devant une toile vide. Il me demandait « mais pourquoi tu te mets comme ça devant la toile vide ?» Et je lui répondais que j'attendais qu'elle me parle, comme si les choses allaient apparaître progressivement. Et lorsque je peins, je travaille toujours de la même manière. J'attends toujours que ça me parle. Alors maintenant, je reste moins longtemps devant la toile. Je peux provoquer la venue, la montée de quelque chose en faisant quelques taches d'encre pour que les choses apparaissent. J'ai été très longtemps un peintre, entre guillemets, abstraite. Maintenant, je travaille plus sur une sorte de paysage où les choses apparaissent comme ça progressivement. Je travaille sur toile. Mais j'ai aussi très longtemps travaillé sur du géotextile qui était fait de fibres synthétiques qui ressemblaient comme à des cocons de chenilles, donc avec des fibres qui s'entremêlaient. J'aime beaucoup la transparence, donc je fais un travail de glacis que je superpose les uns sur les autres pour que les couleurs apparaissent pas d'un seul coup, mais qu'elles apparaissent progressivement et qu'on ait toujours l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées dessous. On aperçoit quelque chose toujours en dessous de la couche de peinture. Donc j'aime les choses qui sont cachées, mais qui laissent transparaître des choses, pour pas que ce soit trop évident, les choses apparaissent comme ça d'un seul coup. En ce moment, je travaille depuis 3-4 ans autour de l'idée des parcs et des moires. Donc ce sont des déesses de l'antiquité grecque et romaine, ou romaine et grecque d'ailleurs, parce que j'ai commencé par les parcs. Ce sont trois sœurs, et ces trois sœurs président au destin des hommes. Donc la première, Clotho, va filer le fil de la vie des hommes. La deuxième, Lachésis, va mesurer le fil de la vie des hommes. Et la dernière, le couple. Elle s'appelle Atropos. Elle préside au destin des hommes. Donc cette idée des moires et des parcs est venue parce que j'ai toujours l'impression de sentir des présences bienveillantes autour de moi. J'adore la mythologie et j'ai eu l'idée d'inventer un autre mythe et d'imaginer qu'une fois que ces trois déesses ont coupé le fil de la vie des hommes, j'ai imaginé qu'il y avait des êtres suspendus qui nous entouraient. On ne les voit pas, mais on les sent. Alors, suivant la sensibilité de chacun ou l'écoute qu'on peut avoir, on va sentir ces présences. J'ai pas eu beaucoup de pertes dans ma vie de gens que j'aimais, mais les seules pertes que j'ai eues, j'ai toujours l'impression qu'ils sont à côté de moi. Donc, j'ai eu envie de les matérialiser sur mes toiles avec ces fils de personnages, comme ça, ces silhouettes qui sont juste brodées. Ces petites présences qui sont là comme des cadeaux.
Dans le cadre de la 15e édition du festival Bruce Mandel, vous exposez au passage Chabrier à Saint-Pierre-des-Corps. On y voit justement les trois parcs et elles sont peintes sur des cartes.
Alors pourquoi j'ai choisi des cartes? C'est tout simplement déjà un cadeau que l'on m'a fait. Et lorsque j'ai eu ces cartes, j'ai eu un temps de latence en me disant bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ces cartes? C'est des cartes géographiques qui étaient utilisées dans des écoles, hein, qui sont plus utilisables puisque les cartes ont changé. Beaucoup de cartes sont fausses maintenant. La vie d'un homme ou d'une femme est jalonnée de parcours. On va d'un endroit à un autre, on vient de quelque part, toute notre histoire est racontée par un terrain géographique. J'ai eu envie de lier le fil parcours et le fil le destin des gens. Donc on va voir ces espèces de parcours qui sont comme des fils bleus, jalonnés de points rouges, qui sont tous les endroits où on va pouvoir aller ou qui nous relient effectivement à des gens, à des choses, à des lieux où on aimerait aller. Et j'ai envie de les lier au fil de la vie des hommes.
Dans cette même exposition, on peut voir à propos de silhouettes qui apparaissent et de l'idée du voile, du dévoilé, du transparence, il y a ces constructions où on voit un fond, une photo, avec devant comme un tulle avec une petite silhouette brodée dessus.
Depuis plusieurs années aussi, je mène un travail photographique qui est en lien et un peu à part aussi de ma peinture. Je prends des photos depuis 6-7 ans de paysages parallèles, de mondes parallèles, j'appelle. Je les prends en voiture quand ce n'est pas moi qui conduis, je précise. Parce que j'ai l'impression de saisir des choses qu'on ne peut pas saisir à l'œil nu. Donc seul l'appareil photo est capable de capter ces espèces d'images fugaces qui sont floutées par la vitesse, mais qui sont pour moi d'une beauté incroyable. Donc on a toutes ces suspensions de personnages qu'on ne voit pas mais qui sont présents, et tous ces paysages qui sont présents mais qu'on ne voit pas non plus à l'œil nu. On est vraiment dans quelque chose qu'on ne peut pas percevoir, et seul quelque chose comme ça de matériel va pouvoir capter ces images. Donc il y a un côté mystérieux, un côté trouble aussi. J'ai eu envie de mettre un parallèle entre ces mondes parallèles et ces personnages qui sont là, qu'on ne voit pas. Donc c'est pour ça que ces tulles transparents vont nous laisser transparaître ces images qui sont floues. Donc j'aime le flou. En peinture, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Par exemple, quand on veut voir mieux les valeurs, les couleurs, les intensités de gris, on plisse les yeux. Donc on trouble le regard. Et quand on trouble le regard, même quand on regarde une peinture ancienne, on voit les taches de lumière, on voit les dégradés de gris, on voit tout ce qui est important. Et bien là, je fais le flouter pour que les gens voient ce qui est important. Je floute par ces photos, par ces voiles, une image. Donc on arrive aux vraies choses, choses qu'on ne peut pas voir.
Ces photos floues, avec ce tulle devant, une lumière électrique qui est au-dessus, de voir en fait l'ombre projetée de la silhouette cousue en fil sur cette photo floue.
L'ombre qui se projette, l'ombre du fil qui est vraiment tout petite, hein, qui se projette sur la photo, et c'est comme si ça dédoublait le personnage. Et d'ailleurs, s'il y a plusieurs sources de lumière, on peut la voir plusieurs fois encore.
Dans la même exposition Passage Chabrier, il y a une installation, alors là il y a des grands tulles avec des silhouettes cousues dessus.
Là c'était pour matérialiser tous ces personnages qui nous entourent. J'aurais aimé remplir la salle entièrement de ces tulles. Le problème, c'est que comme je travaille à côté, j'ai pas eu le temps. Mais c'est vraiment une intention. Donc je pense que je vais continuer à travailler dans cette voie pour remplir complètement un espace entier où on soit obligé d'être collé contre, de passer entre. Les espaces sont remplis, on les sent pas, on les voit pas, mais ils sont là.
Thank you.
j'ai pris des personnages qui sont des personnages réels. Ce sont des photos que je prends, que je vole dans la rue, puisque je suis les gens. Il y a un côté un peu détective. Je suis les gens et suivant leur silhouette, la silhouette m'interpelle. Je trouve que le dos d'une personne est très expressif. Rien qu'un dos suffit. On peut même voir presque l'âme d'une personne suivant la posture qu'elle va avoir. On sent les gens guindés, on sent les gens prétentieux, on sent plein de choses quand on regarde quelqu'un de dos. Et moi, je le vole, les dos. Alors, c'est pas des gens qui sont morts, c'est des gens réels. Mais c'est la même chose, puisqu'on est tous destinés à passer. Et ceux qui étaient là avant ont des silhouettes semblables à celles que l'on peut voir maintenant. Toutes les silhouettes brodées sont de dos. Il n'y a que des dos. Sauf une qui est de profil, qui est accroupie. Le regardant, comme dit Lise Guignard qui m'a fait le petit texte, et j'aime bien cette idée de regarder quelque chose. Il y a un côté intérieur. Moi, j'aime beaucoup rêvasser. Je trouve que la plupart des choses se déroulent dans notre tête. Dans la vie, si on n'a pas déjà une petite pensée, si on n'a pas rêvé les choses, on n'a pas envie de les faire. Donc moi j'aime beaucoup, ça passe par la tête, avant de passer par la main, et ça se passe aussi là. Quand je peins, j'ai besoin de sentir une sensation qui réchauffe le ventre. Si j'ai pas cette sensation, j'ai l'impression que ma peinture, elle n'est pas réussie. Il faut qu'il y ait une émotion. Alors après, c'est vrai que dans l'art contemporain, souvent on est un peu détaché de cette émotion. Souvent il y a... Les artistes contemporains ont un travail très intellectualisé. J'aime beaucoup essayer de toucher les gens. Après, on a tous un travail différent.
Cette exposition, on peut voir aussi des petits formats. Il y a un mur où il y a beaucoup de photos. Enfin, je crois que c'est de la photo qui est marouflée sur de la toile. Comment vous les avez obtenues, ces photos? C'est aussi par le même procédé en voiture?
Alors, il y a les deux, là. Il y a le procédé en voiture, c'est-à-dire que je vais mélanger jusqu'à peut-être 5-6 photos. Il y a des photos qui ont été prises en voiture qui sont mélangées à d'autres photos. Donc c'est un travail de photographie numérique retravaillé sur Photoshop, mais je les conçois comme des peintures. C'est-à-dire que je superpose des calques, j'en efface des parties, je rajoute des couleurs sur certaines. Donc c'est vraiment comme un travail de peinture. Tout ça pour essayer d'obtenir une image trouble, toujours, pour essayer de faire rêver. En fin de compte, c'est ce que j'aime, faire rêver. Quand on entre dans une image, j'ai besoin qu'elle provoque quelque chose. Je pourrais très bien faire qu'une seule couleur, mais il faut qu'on aperçoive des petites choses comme ça qui nous titillent l'esprit et qui nous donnent envie de partir.
Vous nous invitez à rêver en quelle couleur et en quelle matière?
Très longtemps, j'ai emmené les gens dans le rêve grâce à de l'ocre. Je travaille avec des sables d'ocre. Puis progressivement, travaillant au Musée des Beaux-Arts depuis maintenant plusieurs années, ça fait plus de 20 ans que je travaille là-bas, je reviens d'une manière de peindre beaucoup plus classique, puisque je travaille par glacis. Avant, je travaillais plus par empattement, par des couleurs très terrestres, puisque mes parents viennent de la terre aussi, puisque mes parents étaient viticulteurs. Maintenant, je travaille plus avec des couleurs, des rouges, des bleus, des verts, la couleur des paysages, en fin de compte. Je suis très, très attirée par les arbres et la terre. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Je ne pourrais pas vivre dans un désert. Même s'il est jaune, même s'il a des belles couleurs, j'ai besoin de voir de la verdure, de voir des arbres. Et on voit beaucoup d'arbres dans mes photos, dans mes peintures. On voit la terre.
Cette idée de transparence qui se fonde, on pourrait penser que c'est des couleurs assez claires. Pourtant, dans certaines de vos toiles, donc on peut voir Passage Chabrier, il y avait des bleus assez puissants.
C'est des bleus, presque des bleus nuit. Il y a plusieurs toiles qui sont des toiles qui représentent la nuit, avec beaucoup de chemins aussi. Le chemin, quand on parle des chemins, on est sur des cartes. Il y a des chemins qui mènent, on ne sait pas trop où. Et avec ces personnages qui sont suspendus ou qui marchent sur des chemins. Il y a des rouges aussi, tous ces points rouges aussi qui réapparaissent. J'ai eu des périodes où je faisais des peintures toutes rouges. Même dans l'exposition, il y en a une. À l'entrée, juste à côté, pas très loin de Parquet des Moires, là, il y a une peinture entièrement rouge, faite avec du fil rouge. J'ai mes périodes, j'ai mes couleurs. C'est comme, comme Picasso avec ses périodes bleues ou rouges.
Je vois ici une toile qui est justement dans des couleurs ocre avec une matière, une épaisseur.
J'ai eu tout un travail après l'école des Beaux-Arts où je travaillais avec des ocres qui venaient de Roussillon, carrément du sable. Et je travaillais avec des cendres aussi, des cendres de cèpe de vigne. Donc là, c'était mon rapport au métier de mon papa. Et je mettais du goudron sur mes toiles et sur laquelle je saupoudrais comme ça d'ocre pour avoir la couleur qui ressortait sans être mélangée avec un liant. Donc il y a un côté lumineux, satiné, poudré. Et c'était un travail complètement abstrait, donc juste de forme, de couleur, d'éraflure, de motifs décoratifs qui revenaient. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je fais maintenant. Donc j'ai été pendant très très longtemps dans une période abstraite avec des sortes de symboliques, de signes comme ça qui apparaissaient. Mais il y avait une qualité de lumière qui était vraiment celle du pigment pur. Ensuite, j'ai utilisé ces goudrons jusqu'à découvrir une toile qui m'a fait complètement changer de travail. J'ai découvert le géotextile. C'était une toile qui était mise sous les routes pour éviter les remontées d'argile, je crois. Et cette toile a une qualité de transparence qui est géniale. On ne peut pas peindre vraiment dessus parce que c'est une toile qui est synthétique, donc la peinture glisse dessus. Mais j'avais mis au point une technique qui permettait à la peinture d'entrer à l'intérieur. Je la travaillais des deux côtés, ce qui fait qu'on avait des transparences incroyables.
Très surprenant de voir ce premier travail où les couleurs sont fortes, où il y a une matière épaisse, et de voir que vous êtes passé à quelque chose de très léger, de cette tulle.
J'ai eu plusieurs périodes. J'ai eu une période un peu japonisante, celle-ci en fait partie, voilà, où l'ocre était toujours là, mais diluée, donc avec beaucoup plus de transparence. Elle n'était plus en matière, en couleur pure, avec les grains. Donc là, elle était complètement diluée. Ensuite, j'ai eu ce goudron que je diluais lui-même, qui était, je trouve que le goudron est une matière formidable. Il y a des brins intenses, on peut les diluer, on peut faire plein d'effets avec. Mais bon, le problème, c'est que c'est très, très, très cancérigène. Donc j'ai un peu arrêté de l'utiliser parce que je n'avais pas forcément envie de mourir trop jeune. J'utilise maintenant plutôt de l'encre, de chine, qui est pas mal aussi, et puis du brou de noix, qui a des très beaux brins aussi. Mais c'est pas pareil. Ou alors quand je le travaille en extérieur pour pas inhaler la toxicité du produit. Donc avec beaucoup de dilué, comme tous les effets d'encre qu'on peut obtenir, on l'obtient aussi avec le goudron. Donc il y a beaucoup de transparence, des paysages aériens comme ça. J'aime beaucoup les superpositions de paysages. J'adore par exemple quand on est devant un paysage avec du brouillard, où on a des dégradés de gris comme ça, où on s'en va dans le lointain jusqu'au blanc. Et là, on est aussi dans cette espèce de flou, ce paysage. Je trouve que le paysage est ce qu'il y a de plus beau. Les paysages, on peut exprimer énormément de choses par le paysage. Qu'il soit presque abstrait ou qu'il soit très figuratif, on peut se perdre dans le sens propre comme au figuré.
Une autre toile justement de cette première période post-Beaux-Arts.
Donc là, on voit, on a des formes rondes, il y a une grosse masse qui a été recouverte de cendres. Le goudron réapparaît parce que c'est une toile ancienne, mais on voit, il y a comme des sillons, comme si c'était la terre sur laquelle j'avais labouré, rajouté des ocres. Il y a des espèces de signes, mais on peut aussi rêver, il y a des proches et des lointains. On peut imaginer des personnages, on peut imaginer des trous, c'est assez étrange.
Et alors, parce que je vois, il y a ce motif là au milieu qui ressort, bleu.
C'était mon côté égyptien à l'époque. J'utilisais que des ocres, des bleus, des bruns, donc ocre jaune, ocre rouge, des noirs, mais il y avait toujours cette espèce de bleu égyptien qui apparaissait.
Alors une autre toile ronde cette fois-ci.
C'est, je ne sais pas trop quoi, c'est quelque chose qui a été rejeté par la mère qu'un de mes fils m'a offert. J'aime bien, ils aiment bien me faire des cadeaux de supports un peu hétéroclites. Je suppose que c'était peut-être le dessus d'une énorme bobine d'électricien en bois, là, les grosses bobines qu'on peut voir dans les chantiers. Et j'ai eu envie de faire un rappel à la mère qui a rejeté cette partie de bois. J'ai repris comme la vague d'Okusai, donc c'est un petit clin d'œil à Okusai. Et au centre, il y a une gravure qui est extraite d'un livre de Jules Verne. C'est Les enfants du capitaine Grant, comme la peinture que vous avez vue de l'autre côté, comme la grande avec la vague, l'appareil, là aussi. Donc ce sont des peintures où à chaque fois que j'arrête une série, j'ai parfois du mal à me lancer dans une autre série. Donc j'ai besoin d'utiliser des objets qui ont appartenu à des proches. Là, en l'occurrence, c'était un prix qui appartenait à mon grand-père, Les enfants du capitaine Grant, de Jules Verne. Et ce prix était très, très abîmé, donc on ne pouvait rien en faire. Donc j'ai eu envie de le déstructurer pour l'utiliser, pour le mettre dans mes toiles. Donc j'ai commencé comme ça, en maroufler quelques feuilles sur une toile, et puis la création est repartie. Donc ça me sert de marchepied ou de quelque chose qui me propulse pour recommencer à travailler.
La trois petits formats carrés, une petite série.
Là, c'est toujours le jeu de cache-cache, en fin de compte. Quand je parlais tout à l'heure de toile que je recouvre de glacis progressif qui va cacher des choses que j'ai mis en dessous, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis très très longtemps, en fin de compte. Quand j'étais aux Beaux-Arts, je faisais déjà ça. Je trouve que les historiens de l'art, là, ils vont peut-être bondir s'il y en a qui m'entendent, ont toujours tendance à vouloir toujours décortiquer le travail des artistes et toujours essayer d'expliquer toutes les intentions, tout ce qu'ils ont voulu faire. J'ai eu envie toujours de cacher plein de choses pour qu'ils ne puissent pas décortiquer. C'est vraiment une envie que j'ai depuis toujours. Et puis je trouve que quand quelqu'un est trop lisible, quand on comprend trop la personne, elle n'est pas intéressante, on a toujours une part d'ombre, une part de choses qu'on ne dit pas. Et là, c'est ma part d'ombre. Donc je cache des choses, je les laisse transparaître un tout petit peu. Donc là, ce sont des peintures où il y a des paysages qui sont dessinés. Et sur laquelle je marouflais des feuilles sur lesquelles j'avais fait des monotypes. Donc des monotypes, c'est des dessins que l'on fait avec une encre spéciale sur des plaques de verre. Et donc c'est une sorte d'impression. Donc impression sur papier transparent que je viens maroufler sur toile. On a de l'abstraction et de la figuration en même temps. Les deux se superposent.
Un fond, un paysage bleu, blanc, vert et une surimpression rouge.
C'est des couleurs que j'utilise très régulièrement. Il y a des couleurs qui reviennent vraiment régulièrement. Je pense qu'on a tous, depuis maintenant le 19e siècle, depuis l'apparition de ces pigments chimiques qui ont permis aux artistes d'avoir une palette extraordinaire. Ils ont pu vraiment choisir les couleurs. On a pu choisir les couleurs qui étaient propres. Et moi, je sais que j'ai le rouge qui revient, le bleu, le vert, et puis l'ocre. Ces couleurs, elles reviennent tout le temps. Puis les bruns aussi, parce que c'est la terre. Donc ça fait déjà pas mal de couleurs. Mais il y a des couleurs que j'aime pas, par exemple le rose, couleur qu'on voit très peu dans mes peintures.
Et là, une toile carrée brune et ocre.
J'étais aux Beaux-Arts, là. Oui. Et là, c'est un travail avec de la cire, de la peinture à la cire. C'est un travail complètement abstrait, de gravure, un petit peu comme je faisais dans l'ocre. Là, c'est de l'ocre mélangé avec de la cire. Et j'ai raclé pour faire réapparaître ce que j'avais peint en dessous. Mais on n'en voit que des petits bouts. Il y a des petits signes qui réapparaissent. Par exemple, ça, c'est le signe du taureau, qui n'est pas complètement dessiné, mais qu'on entreaperçoit. C'était une période où je faisais beaucoup de corbeaux aussi. Donc, de temps en temps, il y a des corbeaux qui réapparaissent.
Une petite toile carrée. Et là, c'est un travail avec du journal. Oui, oui, on voit par transparence des journaux sous la peinture.
Là, c'est une période où j'aimais bien ajouter un sens aussi à la peinture que je faisais. Dans le monde diplomatique, bon, il y a des articles qui sont vraiment toujours intéressants. Et j'ai eu envie de choisir juste des titres, des petits fragments de textes qui m'ont plu. Et je viens les mélanger à la peinture. Donc là, c'est une espèce de volcan. Et il y a un texte qui s'appelle « Voix rapide ». Et je ne me rappelle plus du texte, mais c'était un texte qui m'avait interpellée. Donc j'aime bien les mélanger. Donc il y a un travail de marouflage, il y a un travail de monotype, de surimpression. C'est vraiment, j'aime beaucoup mélanger plusieurs techniques. Si mes dernières peintures sont plus un travail de peinture à l'huile, je ne sais pas ce que sera le prochain, mais c'est pas parce que je travaille d'une manière en ce moment que la prochaine sera identique. Ce que j'aime, c'est un travail de recherche et je suis en recherche perpétuelle.
Peut-être. Qui sait que les ocres reviendront
ou... Oui, elles sont là, elles sont en moi, les ocres. Bon, j'ai envie de faire tout un travail avec mes personnages qui sont juste sur des voiles. Je ne peux pas faire que ça parce que j'ai besoin de peindre. C'est un besoin physique. J'ai besoin de prendre mes pinceaux, de mettre des couleurs. Après, le travail photographique me manque beaucoup aussi. J'ai commencé une nouvelle série. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose obligatoirement.
Vous parliez tout à l'heure justement de remplir une pièce de voile avec ces personnages cousus dessus. Donc moi, j'attends avec impatience de voir ça. Et c'est vrai que j'imagine, par exemple, une performance dansée au milieu de ces silhouettes.
Ça me plairait beaucoup. J'aime beaucoup mélanger les arts. Au Musée des Beaux-Arts, je fais intervenir des musiciens, des danseurs. J'ai déjà eu des acteurs aussi qui sont venus à ma demande dans le musée. J'adorerais mélanger les arts. J'ai déjà mon plus jeune fils qui m'a fait une musique pour l'exposition. Je trouve que ça colle parfaitement. Les arts se mélangent, il n'y a pas de barrière entre les arts.
Écoutons un extrait de cette musique composée par Simon.
C'était un extrait d'une musique composée par votre fils Evelyne, Simon, et nous poursuivons notre visite dans votre galerie privée.
Donc celle-ci, c'est une autre série qui avait démarré avec, avec l'espèce de vague qu'on voit là. Moi, l'idée, en tout cas, était démarrée comme ça. On m'avait offert un petit arbre qui était rejeté par la crue de la Loire sur la rive. Et donc, c'était un petit bouillard argenté, un petit peuplier argenté, ça s'appelle. Mais mon grand-père appelait ça un bouillard. Et ce petit bouillard argenté avait des racines, on aurait dit une chevelure, il était incroyable. Et j'ai eu envie d'inventer une histoire à partir de ce petit arbre qui voyageait. Et je lui ai inventé un voyage qui partait de la Loire en crue pour arriver jusqu'à la mer. Et à la fin, j'étais déjà dans cette idée aussi de ces êtres suspendus. À la fin, cet arbre s'envolait. Donc là, c'est la fin, il s'envole. Donc j'ai toute une série comme ça où j'utilise les enfants du capitaine Grant qui sont parsemés dans mes peintures, qui sont marouflés. Et je peins par-dessus, je rajoute plein de choses. Des fois, il y a un travail photographique qui est mélangé aussi, comme là, où j'imprime sur mes feuilles de livre. Donc, on a comme ça des petites impressions de choses réelles. Il y a de la peinture, il y a du dessin. Donc, c'est une peinture étrange. Et donc, un dessin plus de la peinture. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle la technique mixte. J'aime explorer toutes les formes d'art.
Evelyne, merci.
Merci beaucoup à vous.
Pour cette émission, le Dahu remercie Evelyne Plumcock pour son accueil si chaleureux. Le Dahu vous dit à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture. Il y en a pour tous les goûts.